Alors, bonjour, chers auditeurs, ici Stéphane Kelly, journaliste de carrière. Et pour notre émission aujourd'hui, nous recevons l'économiste Rémi Katchingo. Bonjour Rémi.
Bonjour Stéphane.
Nous allons parler du dernier livre de Rémi Katchingo qui s'intitule Du miracle rwandais au paradoxe congolais. Le sous-titre est De la pauvreté à l'émergence économique. Je vais faire une brève biographie de Rémi Katchingo. Alors, il est chercheur, professeur d'économie au Collège de Saint-Jérôme, membre de l'Association des économistes du Québec. Il a également enseigné et travaillé comme chercheur à l'Université de Sherbrooke, auteur de plusieurs articles et travaux. Il a notamment publié un article sur le Zaïre. Enfin, il a travaillé en République démocratique du Congo comme analyste de projet. Donc, nous allons commencer l'entrevue. Donc, j'ai une première question pour Rémi Katchingo. Est-il vrai que plus un pays possède des ressources naturelles, plus il a tendance à être riche?
Merci beaucoup, Stéphane, pour cette question pertinente qui vise justement le centre d'intérêt de mon livre. Justement, la question de la possession des ressources naturelles devrait, à mon avis, en principe, donc la réponse à cette question-là devrait être une évidence. Plus un pays détient des ressources naturelles abondantes, comme dans le cas de la République démocratique du Congo, non seulement abondantes, mais aussi diversifiées, on devrait s'attendre à ce que ces pays-là, n'est-ce pas, donc sur le plan donc, du revenu par habitant, ces pays-là soient riches. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque je parle de la richesse, je vois pas la richesse des millions, mais je vois donc le revenu par habitant, par exemple, par an. Et ces revenus-là devraient en principe augmenter. Et une fois que ces revenus-là augmentent, ça pourrait permettre aux habitants du pays d'avoir accès à des meilleures conditions de vie, notamment l'accès à l'eau potable, par exemple, aux soins de santé primaires, et aussi à des conditions matérielles de vie sociale un peu meilleures. Ce n'est pas le cas du Congo, de la République démocratique du Congo précisément, qui est un pays dont on dit que c'est un scandale géologique, étant donné l'énormité de ressources naturelles que ces pays-là possèdent. Donc voilà, en principe, donc, sur le plan donc, de principe, on devrait dire que ben, c'est sûr que ça assure une certaine richesse, mais ce n'est pas le cas en pratique. Et il y a des études empiriques qui l'ont prouvé. Les études de Warner et puis de Zaks, par exemple, qui ont démontré que, qui ont fait des études hein, sur un certain échantillon de pays détenteurs de ressources naturelles, qui arrivent à la conclusion que justement les pays détenteurs de ressources naturelles géraient mal leurs ressources naturelles du point de vue de l'impact que ces ressources-là devaient donner disons, apporter à l'amélioration des conditions de vie des habitants, comparativement aux pays qui étaient entre guillemets, ri moins riche en ressources naturelles.
Je poserai maintenant une deuxième question, justement, pour essayer de cerner, d'élucider les causes des difficultés économiques, de la léthargie économique de la République démocratique du Congo.
Ces causes-là ont été, parce que le livre est comme tel, je l'ai dit, hein, c'est un livre, j'étais très heureux de voir Stéphane. Lors de la présentation de ses livres, il a bien vu, et il a lu aussi, que c'est un livre qui est fondé sur, non pas sur des affirmations gratuites, donc ce sont des recherches scientifiques qui sont à la base disons, de ces livres-là. Donc les causes de la léthargie économique de la République démocratique du Congo, je suis allé chercher un document, hein, donc des résultats des recherches empiriques effectuées par le professeur Tsatsa et Kabuya de l'Université protestante du Congo, alors qui ont fait une étude vraiment fouillée sur l'histoire donc économique de la République démocratique. Là, ils identifient deux causes, deux sources donc des causes de la léthargie, des causes externes et des causes internes. Donc les causes externes viendraient du fait que le Congo, la République démocratique du Congo, au cours des 50 dernières années, aurait subi hein, donc de chocs extérieurs, donc principalement sécuritaires, qui viennent du fait que, étant un pays excessivement riche, il attire vers lui donc des charognards qui viennent pour l'agresser piller ses ressources naturelles. Donc, il est déstabilisé de ce point de vue-là. Comme cause interne, ces chercheurs-là identifient, ils mettent l'accent sur la responsabilité de l'élite politique. Donc, ils disent qu'il y a une crise donc, de gestion de ce qui est aspect économique et politique aussi, qui fait que finalement, on retombe dans la théorie, ou plutôt dans d'autres études empiriques faites par d'autres chercheurs comme Warner et puis Zaks, qui démontrent que lorsqu'un pays riche est riche en ressources naturelles, il amène avec lui trois types de maux. On appelle ça les syndromes hollandais. Donc oui, ces maux-là, ou ces malaises-là, proviendraient sur le plan politique de la théorie de ce qu'on appelle la théorie de la recherche de rente. Donc un pays très riche en ressources naturelles chercherait, la classe politique, l'élite qui va diriger le pays, va chercher à accumuler les richesses qui proviendraient donc de la vente de ces ressources-là. On accumule ça et puis on essaye de créer une sorte de gestion clientéliste pour pérenniser les pouvoirs politiques en place. Donc ça va être donc on va faiblir énormément les institutions politiques et économiques, ce qui fait que le pays va se retrouver dans une sorte de trappe à pauvreté. Donc ça, c'est l'aspect politique, je ne vais pas aller trop en détail. Et l'aspect économique, c'est le fait que la détention en ressources naturelles amène finalement un boom économique dans le secteur où il y a ces ressources-là. Et ce boom-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc provoquer par la vente des ressources naturelles à l'extérieur, il y aura donc une sorte de revenu, des devises qui vont rentrer dans le pays, une surenchère, donc une surenchère du taux d'échange. Okay. Bon, le taux d'échange devient très très fort, le pays devient très fort en monnaie, et ce qui va affaiblir les autres secteurs, je parle ici du secteur agricole et puis industriel, et le secteur dynamique devient le secteur donc des ressources naturelles, qui n'est pas un secteur à proprement parler, disons, qui apporte ce qu'on appelle la valeur ajoutée, qui crée des emplois, etc. Donc, ça va affaiblir ces deux autres secteurs-là. Ça, c'est sur le plan donc, scientifique, et cela est attesté, n'est-ce pas? Donc, le Congo serait principalement, vraiment, sous les chocs, sous l'emprise de ces deux chocs-là, des chocs internes et puis des chocs externes.
Pour ce qui est du Rwanda, comment on peut expliquer la grande croissance économique qu'il a connu est évidemment nettement plus grande que celle du Congo.
Ben c'est vrai, le Rwanda, un pays, disons un petit pays, si on regarde bien du point de vue de la superficie, comparativement au Congo, il entre au moins 80 fois dans le Congo. Et puis du point de vue aussi de la détention en ressources naturelles, le Rwanda est pauvre en ressources naturelles. Comment expliquer que ces pays-là, qui a connu un génocide sur le plan historique en 1994, se ressaisissent rapidement et puis relancent son économie jusqu'à concurrencer les pays donc, de la zone des Grands Lacs africains. C'est, à mon avis, il y a deux faits très importants, plusieurs, on peut s'attarder. Il y a d'abord la présence d'une élite visionnaire qui fait que, avec l'aide massive qui a afflué au Rwanda, au lendemain du génocide de 1994, la communauté internationale s'est sentie un peu responsable de ce qui venait d'arriver au Rwanda, parce qu'elle est restée donc au bras croisé alors que les génocides s'est déroulé. Alors, cette dette morale-là a poussé les pays occidentaux à donner une aide massive au Rwanda. Oui, donc, et cette aide-là a trouvé sur place une élite visionnaire qui a su d'abord rebâtir les institutions du pays, et à partir de ces institutions-là, avec l'aide de l'extérieur, on est parvenu à cibler les secteurs les plus dynamiques de l'économie pour pouvoir relancer la machine économique. Il n'y a pas que l'aide. Le Rwanda a fait une guerre, a continué à faire, donc pendant de longues années, à faire une guerre de prédation en République démocratique du Congo. Il est allé chercher des ressources extérieures, naturelles, au Congo, et pour pouvoir les vendre et puis les gérer à l'intérieur de son pays, pour bâtir son économie. Donc ces deux aspects, la présence d'une élite visionnaire qui voit ce qu'il peut faire avec, et puis l'afflux massif de ressources extérieures, notamment donc ressources venant de l'aide et puis des campagnes de prédation en République démocratique du Congo. Voilà.
Donc finalement, c'est un exemple assez éloquent du fait que l'aide humanitaire, ou en tout cas l'aide qui vient de pays étrangers, suite à une guerre civile, ça peut être bien exploité.
Ah oui, naturellement, il faudrait que ça trouve, comme j'ai dit là, une classe politique, une masse critique de classe politique qui va pouvoir bien gérer cette aide-là. Il y a des cas limites où l'aide est spoliée. Ils pouvaient le faire aussi. Ouais. Donc, le Congo continue à recevoir de l'aide aussi. Ouais. Donc, malgré cela, donc, on voit qu'il y a des progrès, mais dans certains secteurs, ça ne marche pas du tout.
Le Rwanda, justement, si on se rapproche un petit peu plus de la guerre civile qui l'a divisé d'une façon sanglante, comment a-t-il réussi à atténuer les effets les plus durs de cette guerre?
Ah oui, ça c'est une question capitale, parce qu'on voit très bien, comme je le disais, il y a une élite visionnaire qui essaie de rebâtir l'unité du Rwanda, parce que vous savez qu'il y a un clivage entre deux communautés, ou bien deux ethnies, comme on les appelle là-bas, les Tutsis et les Hutus. Alors donc, l'élite essaie de penser les plaies d'abord de cette division-là, qui a été de façon infusée dans la population par un processus très long du colonialisme et tout ça. Et puis, cette élite-là se rend compte que la meilleure façon d'assurer l'avenir de ce pays, c'est d'arriver à créer une unité, une nation unie. Vous savez, c'est un pays extraordinaire, un des rares pays en Afrique où, malgré cette division-là, Tutsi et Rwanda, tout le monde parle la même langue, une langue unique. Comparé au Congo, à mon pays, par exemple, nous avons 4 langues principales, mais si on regarde les dialectes, il y en a au moins 250. Ce n'est pas le cas du Rwanda. Donc cet aspect-là qui fait qu'ils ont une culture presque unique, commune, et puis la langue, ça devait absolument les amener à être unis. Et l'élite visionnaire dont je parle là essaie de bâtir cette unité à partir des acquis, de ces deux acquis-là, la langue et puis la culture, et puis pour bâtir une nation pour l'avenir.
Comment le passé colonial belge imprime-t-il encore des effets sur les deux pays, s'il en imprime encore? Alors, est-ce qu'il y a encore une certaine influence du colonialisme?
Ça, c'est une question très pertinente, parce que nous savons que ces deux pays-là sont des pays qui sont issus justement de ce qu'on appelle, on appelle l'empire colonial belge. Donc, ces deux pays-là ont été colonisés par la Belgique, principalement le Congo et tout ça. Et comment est-ce que la Belgique, par un processus, tout le monde connaît ça, donc le néocolonialisme, qui a continué à agir jusqu'à présent donc, dans la plupart des pays africains, et le Congo et les Rwanda n'échappent pas à cette règle-là, ces pays-là sont du moins, qui ont été colonisés, donc dont les structures économiques ont été orientées vers l'exportation donc, des matières premières pour être au service de la métropole. Et on a bâti ces structures-là tout au long, après les indépendances. Il y a eu un processus de ce qu'on appelle donc, la continuité dans le changement. Donc, le changement, c'est quoi? C'est qu'on a été colonisé par des Belges, de Français, mais on continue la même politique à travers les fils du pays qu'on va nommer à partir des métropoles. Et ça s'est continué jusqu'à présent. La plupart des présidents africains, même si on dit qu'il y a des élections, mais en tout cas, très souvent, c'est la métropole qui continue. Donc, ce passé-là colonial continue à agir, jusqu'à présent d'ailleurs, dans les pays africains, notamment au Congo et puis en Belgique.
Ce que vous avez montré par rapport au Rwanda, c'est évidemment, ça entretient de l'espoir, évidemment, pour le développement de l'économie africaine. Alors, si on cherche à faire un peu d'anticipation sur une génération, qu'est-ce qu'on peut envisager en termes de développement économique du continent africain?
Oui, ça c'est vraiment une question très pertinente. Le continent africain, c'est un continent qui est en train de bouger, donc on le sent très bien. C'est un des continents, quand on regarde ce qui se passe en Europe, et ici même au Canada, on en risque des taux de croissance de 2% déjà, on fait la fête. Mais le continent africain, la plupart des pays africains, vous trouvez là-bas des taux de croissance de 8%, de 6% au cours des 10 dernières années, par exemple. Donc, à partir de là, on peut fonder l'espoir que Certains pays vont se démarquer dans les 30 années à venir, notamment, là je vois le Rwanda, le Ghana, le Mozambique, l'Angola. Ce sont des pays qui sont en train de connaître une évolution très positive. Et cette évolution-là, et si on peut fonder l'espoir, ne viendrait pas nécessairement de pays qui sont très forts dans la possession des ressources naturelles, mais plutôt qui auront des institutions très fortes, des institutions politiques et économiques qui garantissent justement, n'est-ce pas? Donc les institutions politiques, lorsqu'elles sont très bien faites, elles vont garantir la sécurité de l'État et vont garantir aussi les institutions économiques. Et si l'économie, disons, fonctionne très bien, avec des institutions très bien bâties, on arrive à un développement. Donc je fonde l'espoir que d'ici 30 ans, l'Afrique fera partie donc des continents qui sont très dynamiques.
Écoutez, c'est très, très intéressant, c'est très éclairant comme, comme façon de voir le développement de ces pays-là. Ça donne le goût de suivre vos cours, M. Kasingo. Alors, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
Merci beaucoup.
À vous.